Par définition, wesher une fleur, c'est une aberration déjà. Malheureusement, on a de la chance là encore à l'heure actuelle hein, d'avoir des dirigeants qui sont... Bah voilà, on entend encore des discours à la télé. Hein. C'est aberrant qu'on puisse sortir des énormités encore comme ça. On est dans le déni total, on associe ça aux stupéfiants, à la fume, à la récréative, à tout ça. Donc c'est du grand n'importe quoi. Toutes les pathologies qui vont nécessiter le fait d'utiliser ou un anti-inflammatoire ou un antidépresseur, d'accord, on va pouvoir y associer le cannabis.
Parlons canin.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité, sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
Bonjour, je suis Mathias et vous êtes bien sur Parlons Cana saison 2, le premier podcast qui traite de l'actualité du cannabis légal et bien plus encore. Après une première saison exceptionnelle où nous avons eu des invités extraordinaires, je suis ravi de vous retrouver pour une deuxième saison au cours de laquelle vous retrouverez un mélange d'opinions et d'entrevues piquantes, parfois musclées, avec une grande variété de personnalités. Des politiques, des avocats, mais aussi des producteurs, des addictologues et des acteurs majeurs du milieu venant du monde entier. Bref, vous allez apprendre des informations surprenantes venant de tous horizons et sans langue de bois. Nous allons ensemble démystifier cette plante aux mille facettes et examiner en profondeur cette révolution mondiale en constante évolution qui est le cannabis. Je vous souhaite une très bonne écoute sur Parlons Cana. Bonjour et bienvenue sur Parlons Cana. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Patrice Prunas. Alors, je dis bien Prunas, n'hésite pas à intervenir. Tu me dis si c'est Pruna ou Prunas ?
C'est Prunas.
C'est Prunas, parfait. Alors, tu es sale manager chez Natorm Europe, donc un chanvrier français fort de plus de 20 ans d'expérience, basé dans la province de Bugey, spécialisé dans la production et la distribution de produits dérivés du chanvre 100% Made in France, et je sais, j'ai croisé les équipes dans des salons, et c'est ce que vous revendiquez haut et fort, donc notamment vous faites de la résine, de l'huile, de l'illiquide. Alors tu travailles depuis 2019 dans la gamme pharma, donc quand je dis pharma, c'est la partie pharmacie, je parle de distribution en pharmacie. Ça va être un sujet qu'on va aborder, puisque j'ai personne qui m'a parlé de ce sujet-là, et je sais que c'est un gros sujet, il y a un énorme potentiel dans cette partie-là, mais c'est assez spécifique et c'est assez complexe, donc on va rentrer dedans. Et tu travailles aussi récemment sur la partie tabac, donc intégrer évidemment CBD dans les tabacs. Alors tu es spécialisé en homologation et en logistique pour le CBD, et tu proposes tes produits non pas seulement en France, mais aussi dans toute l'Europe. Une chose sur laquelle vous êtes inarrêtable, j'allais dire, et surtout intransigeant, c'est que vous contrôlez scrupuleusement vos taux pour être évidemment en dessous de 0,3%. Donc, on en parlera aussi par rapport à ça, parce que je sais que des fois, il y a certaines personnes qui... ce n'est pas très important pour eux, mais vous, c'est quelque chose de très important. Alors, avant ça, Patrice, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi. Je sais qu'on a beaucoup, on s'est croisés à plusieurs reprises dans pas mal d'endroits. On a déjà beaucoup discuté ensemble. Tu es une bible sur le CBD, sur le cannabis en général. On va passer à un moment où tu vas nous apprendre énormément de choses. Mais avant tout ça, dis-nous qui tu es, Patrice. Qui tu es un petit peu?
Mais écoute, c'est gentil. Donc voilà que je me présente, hein, Patrice Prunas. Effectivement, ça fait une paire d'années maintenant que j'ai intégré le secteur du CBD en général. Je pense que c'est arrivé à peu près comme tout le monde, aux alentours de 2016-2017 à peu près. Voilà, en ce qui concerne le parcours, je ne viens pas vraiment de là. Je peux dire que j'ai un parcours un peu plutôt atypique. J'ai fait le choix quand même de voyager et de vivre plusieurs expériences, notamment musicales aussi, hein, et littéraires, on va dire, jusque l'âge de 21 ans à peu près. Et puis bon, là, une fois que j'ai fait le tour un petit peu de ce que j'ai envie de faire, j'ai repris des études jusqu'à obtenir une équivalence ingénieur en informatique. Du coup, je viens de ce milieu-là.
D'accord, donc rien à voir.
Non, bah non, non, rien à voir, mais j'ai surtout eu la chance d'avoir été intermittent du spectacle pendant une bonne dizaine d'années, musicien, donc ce qui m'a permis de voyager et puis de rencontrer des gens, puis
D'accord.
cultures aussi différentes, plusieurs pays, c'était plutôt pas mal. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à y venir, ce qui m'a amené à y venir au cannabis, hein, d'ailleurs, hein, parce que
J'allais te poser la
dans
question.
l'environnement.
Donc c'est là, c'est pendant cette expérience-là où tu as croisé le cannabis?
C'est ça, tout à fait. Bah, d'un point de vue, je dirais récréatif, parce que voilà, c'est toujours un milieu où c'est un petit peu monnaie courante. Et puis même, hein, de par l'état d'esprit un petit peu 68 art, puisque c'est une période qui m'affectionne particulièrement. C'était les premières rencontres avec le cannabis. Mais suite justement à ces 10 ans d'intermittence, j'ai contracté une blessure au bas du dos. J'ai eu une lourde opération, c'était plusieurs mois de rééducation et puis beaucoup de médicaments anti-inflammatoires et compagnie, jusqu'à temps que je rencontre un médecin qui m'a aiguillé un petit peu vers le CBD, le cannabis thérapeutique du coup, et je me suis procuré donc du coup de l'huile en Suisse au départ, hein, parce que c'était au tout début. Petit à petit, j'ai complètement substitué tout ce qui était anti-inflammatoire antalgique par le CBD et par le cannabis, fatalement, et à partir de ce moment-là, je peux pas dire que ça m'a fait comme une révélation, mais m'a paru important de je pouvais joindre l'utile à l'agréable et surtout étant enfin j'étais dans un contexte familial où c'était dans le pharmaceutique du coup du côté de mon beau-père qui travaillait dans un laboratoire qui travaille encore d'ailleurs aujourd'hui bon, c'était un petit peu le fait de faire autre chose et découvrir autre chose que les médicaments et fatalement ça m'a énormément aidé je l'utilise encore aujourd'hui hein, de l'huile lorsque j'ai des douleurs, parce qu'il me reste quelques douleurs chroniques quand même, c'était une opération relativement lourde. Mais voilà, j'ai complètement substitué les médicaments avec le CBD.
D'accord, donc
Alors je dirais que
si je comprends bien, donc en gros, tu avais des douleurs et t'as décidé de te soigner d'un point de vue naturel avec l'huile, et là, tu as vu une révélation puisque ça a fonctionné super bien sur toi, et tu t'es dit, bah,
c'est
écoute, j'ai
ça.
envie de le faire connaître au plus grand nombre.
Mais oui, surtout, puis de le travailler, puis d'approfondir la chose, de comprendre le pourquoi du comment, sachant que j'étais déjà un passionné de la plante à la base. Ça coulait de source au final. Et puis j'ai tracé, alors ça a pris du temps au final, mais j'ai tracé mon parcours un petit peu en forgeant, en faisant des formations, en rencontrant des médecins, des professionnels, des chanvriers, beaucoup d'acteurs professionnels du chanvre. Hein.
Ok, bah justement, ça, tu vas nous en parler dans la partie pharma. Parle-nous un petit peu de ta vision aujourd'hui, puisque tu es là depuis pas mal de temps dans le game du CBD. Ça fait un long moment qu'on n'a pas parlé de CBD en plus sur Parlons Cana. Parle-nous un petit peu de comment tu vois la filière française du CBD aujourd'hui. C'est quoi ton analyse? C'est quoi ta vision du marché et où est-ce qu'il va se marcher?
La filière française, c'est vrai que c'est un sacré nœud. Enfin, je pense, on peut dire aujourd'hui, au niveau des extractions, au niveau des produits, bon, il y a quelques acteurs sérieux qui travaillent, hein, sur le circuit. Donc, on a quand même de très, très, très bons produits. Mais je pense que je peux relancer le débat qui est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est de dire que malheureusement, les agriculteurs français n'ont pas les moyens, entre guillemets, ni financiers, les aides nécessaires, ni la possibilité de travailler des fleurs à taux intéressant, puisque par exemple, pour le cannabis thérapeutique, par exemple, on sait que le THC n'a aucun effet d'entourage en dessous de 1% de THC. Donc, fatalement, en travaillant des plantes à zéro, on a une super filière de chanvre en France, mais elle n'est pas optimisée. On leur laisse pas la possibilité de travailler des fleurs qui leur permettraient d'avoir accès et au marché B2B pour les professionnels et au marché pharma pour la transformation des produits. Donc malheureusement, je souhaite sincèrement que les choses changent de ce côté-là. Il y a des acteurs, hein, qui se battent pour
Tu dis
ça,
ça,
des
Patrice.
associations.
Je te coupe, tu dis ça parce que on est à un taux à 0, à 0,3, c'est ça, tu dis que
0,3, oui, bah oui, 0,3 THC. Donc bon, d'un point de vue thérapeutique, les pathologies, je pense qu'on peut les classer en trois catégories. Il y a des catégories qui vont utiliser le CBD, enfin auxquelles on va pouvoir utiliser le CBD, des catégories pour lesquelles on va utiliser le CBD et le THC, et des catégories pour lesquelles on va utiliser le THC. Sur certaines pathologies, on aura beau utiliser du CBD, ça n'aura aucune incidence. C'est le THC qui agira sur cette pathologie. Donc, fatalement, il a aussi son importance. Alors, bien évidemment, le CBD déjà permet d'aborder un spectre large. Pathologies diverses, chose qui est quand même relativement intéressant, mais néanmoins, je pense que pour l'ensemble des professionnels, malheureusement, voilà, ils sont obligés de se fournir certains extraits ou certains produits à l'étranger, alors qu'encore une fois, je le répète, on a une filière en France qui sont topissimes, on a des agriculteurs qui connaissent le sujet, qui se battent depuis des années pour faire valoir le droit des chanvriers en France. Donc j'estime au bout d'un moment qu'il faudrait quand même un petit peu leur donner la possibilité de travailler dans les conditions correctes. Ce serait une très bonne chose.
T'as raison, surtout qu'historiquement, la France a été un gros producteur de chanvre.
Mais oui, c'est ça.
C'est tu,
je crois que
tu l'as un petit peu.
Les années, résime les années, les fins des années, entre les années 45 et 50, si je me trompe pas, ça statuait, hein. Après-guerre, prohibition, ont remplacé le chanvre par le coton déjà. Donc du coup, ça date. Et après, bon, il y a eu quelques lois arrêtées qui ont été placées sur les produits stupéfiants, mais le chanvre proprement dit, on en faisait du papier, de l'huile, de la corde, du tissu. Il y a eu l'importation du coton aussi, hein, des États-Unis à l'après-guerre aussi. Fatalement, ça a beaucoup changé les choses par rapport après à l'utilisation du chanvre. Donc voilà, c'est un produit qui était boudé. On s'est complètement désintéressé alors que c'est quand même un produit. Enfin, ne serait-ce qu'au niveau de la culture, ça dépollue les sols déjà. Ça pousse n'importe où, ça s'adapte au climat. Et ça a des multiples utilités, du coup.
Alors, avant de parler sur la partie pharma où je vais te pharmacie où je vais te parler, je vais te poser énormément de questions. Parle-nous un petit peu de Natorm Europe. Qu'est-ce que c'est comme, qu'est-ce que vous faites dans votre société?
Alors, Natorm, en fait, c'est une société qui s'est créée dans les années 2000 à peu près, hein, à l'initiative de Madame Lebon. Et à la base, Natorm était de rendre aux professionnels le chanvre à coût réel, c'est-à-dire que pouvoir créer un vrai partenariat avec les revendeurs, qu'ils soient grossistes ou boutiques, hein. Et le fait de pouvoir leur offrir un produit vraiment qualitatif, du coup 100% issu du chanvre pour les résines par exemple, ou pareil pour les huiles, hein. Et surtout à des coûts qui leur donnaient la possibilité de travailler et de vivre en fait, hein. On a vu des choses. Depuis, je pense que depuis le circuit de chanvre s'est mis en place en France, le CBD, on a vu un peu tout, n'importe quoi, hein. Des fleurs avec des taux de CBD énormes et de THC ultra bas, des huiles illiquides, Isola, des cochonneries. Il y a effectivement beaucoup de cochonneries qui tournent. Donc, le but principal était de mettre à profit des professionnels un produit qualitatif et voilà, avec un prix, on va dire, plus qu'intéressant.
Alors, pourquoi tu dis cochonnerie? Pourquoi c'est des cochonneries selon tes yeux?
Parce que on a vu des résines avec de la pâte alimentaire ou mal rincées avec une vieille odeur d'éthanol, vieille résine noire qu'on a vu beaucoup, qui venait un petit peu de Suisse et d'Espagne. On a vu aussi les fameuses fleurs qui avaient des taux de 20 à 30% de CBD et moins de 0,2% de THC. Donc, fleurs qui pouvaient être pchitées, éthanol, Isola. Arrivé aussi à l'époque où il y avait un petit peu le bisbille entre la Suisse, il y avait des représentations fiscales au Luxembourg qui permettaient d'amener les fleurs en Belgique et en France. C'était un petit peu les combines. C'est vrai que le statut est flou, hein, ça se réglemente un petit peu au fil du temps, mais c'est long, la mise en place est longue, pas souvent juste. Et les acteurs principaux aujourd'hui ont dû travailler un petit peu comme ils le pouvaient pour pouvoir exercer leur profession parce que c'était pas facile.
Tu penses pas, je te pose une petite question en l'air là, hein, tu penses pas que quand tu as des règles qui sont un petit peu aberrantes, hein, je te parle notamment du taux, alors on est passé de 0,2 à 0,3, c'est pas le changement du siècle, tu penses pas justement que on a une connaissance produit et en connaissant justement le taux de THC inférieur à 1% n'a pas tant d'impact, par contre il peut avoir un impact très positif, j'allais dire, sur l'effet global, et ça évite potentiellement de washer les fleurs. Tu penses pas que les entrepreneurs, justement, à un moment donné, doivent se dire, quitte à être un petit peu hors la loi, proposer un produit de meilleure qualité aux consommateurs?
Meilleure qualité, oui, effectivement, mais par définition, washer une fleur, c'est une aberration déjà. Honnêtement, si je pouvais ne pas les proposer, hein, et d'ailleurs, je le fais vraiment à la demande, mais c'est vraiment un produit que je travaille peu, ou hormis du produit poussant en France dans les taux réglementaires, mais des fleurs washées, c'est oui, et puis en plus, non, je vais pas dire faire ma précieuse, hein, mais. Oui, étant vraiment amoureux de cette plante. Non, c'est pas respecter le produit et de toute façon, on en sort forcément un produit pas qualitatif. Après, bon, le CBD, on peut le diffuser sous deux bannières, le récréatif puisqu'on peut y avoir un intérêt récréatif, voire une mode, et l'effet thérapeutique, enfin la partie thérapeutique. En aucun cas, on va parler de fumer un produit sous cette bannière, la bannière thérapeutique. Donc du coup, la fleur. Voilà, donc qualitative n'a pas forcément d'intérêt. Enfin, la faire washer n'a pas forcément d'intérêt ce secteur-là.
Ok, donc on en parlera de toute façon sur la partie tabac, parce que je pense que c'est un peu plus contraignant sur la partie tabac. Avant de passer sur la partie pharma, toi, comment tu vois la filière la française du CBD? On a parlé d'agriculteurs. Aujourd'hui, on a vu un marché qui a stagné un petit peu, on va dire, en 2022. Ça a l'air d'être de bien reprendre en 2023 suite au changement de loi. Comment toi tu vois la filière française CBD? Où est-ce qu'elle va selon toi? Est-ce qu'elle est bien organisée? Qu'est-ce que disent les consommateurs? Voilà, parle-nous un petit peu de ta vision là-dessus.
Pam, pam. Ça aussi, c'est bon sujet. J'aimerais bien entre les choses, la façon dont je voudrais qu'elles soient et comment ça va se passer vraiment. J'imagine qu'il y a un monde. Malheureusement, on a de la chance là encore à l'heure actuelle, hein, d'avoir des dirigeants qui sont, bah voilà, on entend encore des discours à la télé, hein. C'est aberrant qu'on puisse sortir des énormités encore comme ça. Ou alors, on connaît pas du tout le CBD. On avait pu le voir avec la ministre de la Santé à l'époque, Madame Buzyn, qui était interviewée. Elle était complètement à l'ouest par rapport à ce qu'elle disait, à se mélanger les pinceaux avec les molécules, à l'appel des collègues, tout ça. C'était grotesque. Et aujourd'hui, on a, bah voilà, encore un ministre de l'Intérieur. Ça a pas vraiment changé. Là, on n'est pas dans le, on est dans le déni total. On associe ça aux stupéfiants, à la fume, à la récréative, à tout ça, donc c'est du grand n'importe quoi. Ça fait de l'ombre à ce qu'on peut faire réellement avec le cannabis légal. Bon, heureusement, il y a eu la décision du Conseil d'État un petit peu qui était quand même de mettre Léo là et de donner la possibilité quand même aux acteurs de continuer à travailler. Après, la filière du chanvre, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment, c'est qu'elle se... Je sais que je vais être dur en tenant ces propos, mais qu'elle se resserre un petit peu, que ça se concentre en des professionnels. Mais sérieux, il y a encore aujourd'hui trop d'acteurs, malheureusement, qui ne le sont pas, qui vendent des produits de cochonnerie, qui trompent... Enfin voilà, je vais pas aller m'aventurer plus sur le sujet. Il y a trop d'acteurs pas sérieux encore à mon goût. Je pense que ça dessert et le chanvre en général et la mise en place du coup... d'un point de vue légal et légiféré en France. Donc c'est vrai que ça serait un bon point, franchement, qu'il y ait une vraie législation et avec voilà des acteurs qui jouent le jeu de cette législation. Ça serait bien aussi, je pense, qu'on puisse avoir des axes de travail différents. Le tabac et le pharma, entre guillemets, rien à voir ensemble. Comme je dis, on peut pas utiliser un produit pour ce... On peut pas décemment penser qu'on va soigner en fumant un produit, surtout pour des personnes qui veulent se concentrer sur la fleur. Il y a tout ce qui est phytothérapie ou homéopathie, donc vaporisation ou infusion, hein, voire même macération, par exemple. Donc, on a la possibilité d'utiliser la fleur sans forcément la fumer. Donc, bien dissocier les choses, c'est deux mondes qui n'ont rien à voir. Et j'associerai au tabac l'aspect B2B, B2C, puisqu'on est là dans une consommation récréative. Une personne qui va avoir l'aspect thérapeutique de la chose ne va pas aller acheter son sachet de fleurs chez un marchand de tabac. Donc, je pense donc qu'il y a de la place pour tout le monde pour travailler, hein, nécessairement, et bien concentré sur ces deux différents blocs. C'est important de faire la différence des deux.
Je vois. Et donc là, toi, tu le vois où sur les prochaines années? Tu le vois, il va partir où ce marché, selon toi? Comment continuer à augmenter? Il va se stabiliser? Il va partir?
Écoute, je suis joueur. Donc, si je devais faire un pari, je parierais sur le pharma et le tabac.
Ah, okay.
Puisque, bah oui, à l'heure actuelle, malheureusement, ça reste des grosses machines. Des machines de guerre au niveau de la logistique, au niveau de la distribution. On n'est pas encore assez ouvert sur le sujet pour la grande distribution, comme on peut retrouver dans les magasins en Belgique, par exemple. Il y a des enseignes où on retrouve le CBD à l'intérieur, comme Carrefour, comme tout ça, comme les stations essence aussi, hein, sur l'autoroute. Donc, du coup, à voir. Mais oui, effectivement, je parierais sur le pharma pour le cœur, et de toute façon, c'est là où il y aura le plus d'avance, je pense. Et le tabac, parce qu'il faut effectivement l'aspect business et que la diffusion dans les tabacs, ça va avoir un impact monstre, je pense.
Ah bah, super, écoute Patrice, tu me donnes une transition parfaite. Aujourd'hui, on a à peu près 20 000, un peu plus de 20 000 pharmacies en France, tu me dis si je dis des bêtises. Et alors toi, explique-moi un petit peu quelle est ta démarche sur la partie pharma, quelle est la spécificité des pharmacies en France, comment ça fonctionne et comment le CBD pourrait être un produit intéressant pour les pharmacies, donc les patients qui sont envoyés par les docteurs à aller chercher des médicaments ou pour d'autres choses en pharmacie. Parlons un petit peu de ce marché-là.
Si ça t'embête pas, et si tu me permets de faire juste une petite parenthèse parce qu'il était fait avant, vas-y, mais vraiment de 10 secondes. Vas-y. Et je voudrais pas faire gage de maladresse, qu'on soit bien d'accord, comme tu me demandes voilà ce que je pense pour l'avenir. Effectivement, je te dis le tabac et le pharma. Ouais. Mais il y a une classe que je voudrais pas oublier parce que quand même, il y en a. Donc c'est pas pour repasser. Voilà, on a tout dit. Je dis bonjour à tout le monde. Non, c'est pas ça. Je travaille encore avec des boutiques, plusieurs déjà. Et il y a beaucoup de boutiques. Il faut quand même pas les oublier parce que dedans, il y a des vrais passionnés, des personnes qui connaissent le produit et qu'on retrouve vraiment entre le pharmacien et le tabac. C'est-à-dire que peut-être que la personne n'aura pas les connaissances thérapeutiques. Il y a énormément de choses, hein. Il y a des contradictions, on y reviendra après, mais des contradictions médicamenteuses par rapport au CBD, il y a plein de choses. Donc du coup, peut-être pas aussi calé au niveau qu'un pharmacien sur l'aspect thérapeutique, mais néanmoins, la plupart du temps, c'est des personnes qui connaissent le produit, qui sont passionnées, qui vont aller chercher chez les fournisseurs des produits de qualité. Il y en a encore beaucoup. Et il faudrait quand même que ces personnes-là aient la possibilité, malgré l'implantation dans les grandes chaînes de distribution, puissent avoir la possibilité de continuer, parce que ça serait pas juste, du coup, pour les personnes qui ont joué le jeu, qui ont prodigué de bons conseils, vendu des bons produits, de pas pouvoir continuer à exercer leur activité. En Belgique, c'était dur. Ce qui s'est passé, la mise en place du tabac, il y a énormément de boutiques qui ont fermé, énormément de commerçants qui ont laissé leurs plumes. Alors, il en reste encore aujourd'hui, mais je pense peut-être un tiers par rapport à ce qui s'est passé. Donc, du coup, c'est trop. Il faudrait qu'il ne se passe pas la même chose en France et qu'il puisse continuer. C'est un petit peu le but de Natorl aussi. C'est du coup d'offrir aux boutiques la possibilité de travailler au même titre que les grossistes et les grosses chaînes de magasins. Sinon, avec des prix qui sont adaptés à leurs achats et puis à leur budget.
T'as raison, Patrice, de faire cet écart-là, puisque évidemment, les boutiques ont été les premières à être au combat. Il y a plus de 2000 boutiques aujourd'hui en France et au début, surtout en 2018, ils ont eu pas mal de problèmes avec la justice. Donc, c'est elles qui ont tracé, qui ont tracé la route. Donc, t'as raison de les remettre en avant.
Et qui se battent et qui fournissent de l'argent, enfin, qui contractent auprès des différents syndicats, quels qu'ils soient, hein. Donc, du coup, ils permettent aussi de vivre les syndicats. Beaucoup de boutiques sont militantes aussi. On le voit sur les réseaux sociaux. Donc, il y a aujourd'hui des boutiques, pas forcément des grosses chaînes de magasins, et des petites boutiques qui ont deux, trois magasins, voire même un, qui sont des figures emblématique hein, de la scène du CBD français parce que convaincu, parce que produit de qualité, parce que non aux produits de fraude, de cochonnerie cheatée ou retouchée. Donc,
t'as raison. L'autre chemin que je pourrais te dire aussi, c'est que les boutiques, elles ont peur aussi sur cette partie tabac et pharma, de se dire voilà, mince, il y a un concurrent qui va ouvrir en face de moi. C'est un tabac qui est là depuis 20 ans et potentiellement, les consommateurs vont aller acheter là-bas et pas aller acheter dans ma boutique. Et c'est là où il va y avoir justement cet écart entre les produits qu'il va y avoir en tabac et en pharma aussi, et les produits qu'il va y avoir en boutique. C'est là où les boutiques, pour moi, elles doivent aller chercher l'excellence. Elles doivent aller chercher des choses qui sont quasiment uniques pour pouvoir faire la différence avec tous ces produits qui vont arriver de tous les côtés.
Mais c'est déjà le cas de toute façon, hein. Les produits en boutique restent pour la plupart du temps plus qualitatifs. Et puis ce que j'ai envie de dire aux boutiques, c'est que ça reste pas une fatalité pour deux choses. La première, c'est que la fiscalisation de tabac, de toute façon, ça risque d'arriver et elle sera impactée, elle sera la même pour tout le monde. D'autre part, il y aura le report de clientèle et je peux vous assurer que les personnes qui chercheront le qualitatif ou des conseils iront de toute façon. Un tabac, c'est quoi? C'est 30 secondes, 45 secondes. Bonjour, ce sachet-là, je paye, je m'en vais, surtout dans les heures de pointe et sur les tabacs des grandes villes. Généralement, le vendeur du magasin prend le temps d'expliquer les différents produits, les différentes gammes, le pourquoi, du comment, dans l'arsenal de ce qui lui est possible de dire, puisque c'est quand même, il n'a pas le droit de se substituer à la médecine, donc il n'a pas le droit de donner des conseils thérapeutiques. Le vendeur, ça reste compliqué aussi. C'est peut-être pas forcément une mauvaise chose parce que ça évite les médecins du dimanche, quoi. Et effectivement, même si ça reste très rare pour certaines pathologies, le CBD peut avoir des incidences un petit peu néfastes. Alors c'est infime comme pourcentage. Il n'y a d'ailleurs aucun médicament aujourd'hui qui impose de ne pas prendre du CBD. Il y a vraiment quelques catégories où il doit y avoir un suivi du médecin scrupuleux, mais sinon pour le reste non. Donc il faut quand même faire attention.
T'as raison, t'as dit quelque chose d'intéressant sur la partie tabac et pharma. Il y a des consommateurs qui ne connaissent pas du tout le CBD, le cannabis. En général, ils voient toujours d'un spectre drogue. Et je pense que s'ils ont une interaction avec leur tabac ou une interaction avec la pharmacie, ils vont peut-être s'ouvrir sur une nouvelle vision. Effectivement, c'est des nouveaux consommateurs qui pourraient potentiellement retourner par la suite ou aller par la suite en boutique. Puisque, comme tu l'as dit, il y a des choix, il y a beaucoup plus de choix, c'est beaucoup plus large. Il y a beaucoup plus de produits, il y a des produits de qualité et on a des passionnés à l'intérieur. Donc, il faut peut-être pas voir ça d'un mauvais œil quand je parle en position de boutique, mais vraiment le voir peut-être comme un cercle symbiotique qui pourrait s'enrichir sur une connaissance globale du produit, des interactions différentes, des expériences différentes de toute façon avec les produits. Je voulais juste rajouter un petit détail sur ce que tu as dit tout à l'heure. On a parlé de la Belgique, mais la Belgique, il faut le rappeler que la CBD est allé dans les tabacs, donc contrairement à ce qu'on a en France, donc avec notamment la taxe, leur droit d'assise.
C'est ça.
Et c'est pour ça que ça a fait mal, effectivement, aux boutiques, et beaucoup de boutiques ont fermé, ce qui n'est pas le cas.
52%
oui.
De taxes, énorme.
Ouais, c'est énormissime. Donc la taxe là-bas, en fait, de produits à fumer qui est tombée sur le CBD. C'est pour ça que ça a fait mal à la filière et que la filière, je parle de boutique, complètement détruite, en fait.
Pas détruite non plus, puisqu'il reste quand même des chaînes, enfin, quelques magasins qui, des institutions du CBD, il y en avait un qui était là dès le départ aussi. Il reste quand même pas mal de boutiques, mais je dirais oui, ça a pris quand même, ça a perdu, il reste, je pense, un bon gros tiers, peut-être, de boutiques par rapport à ce qu'il y avait. Il s'est passé la même chose qui s'est passée en France, hein. Les commerces fleurissaient comme des champignons, il y en avait partout, 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 dans toutes les villes. Bon, la Belgique a eu une, c'était plus brut de décoffrage, hein, mais c'était fait et voilà, et c'est surtout laissé la possibilité aux personnes non issues du tabac, hein, fatalement, puisque pour pouvoir avoir des sachets vignettés en Belgique, il faut, voilà, apposer une vignette fiscale, et pour avoir les vignettes fiscales, il faut être opérateur économique en Belgique, il faut avoir un entrepôt, c'est un dossier, les démarches sont, c'est long, hein. C'est long, 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 long. C'est très chronophage déjà. Et donc, du coup, ça laissait la possibilité aux personnes donc non issues du milieu de tabac de s'associer avec des opérateurs économiques et de faire des espèces de brand partning. J'ai commencé comme ça en Belgique, hein, brand partning. Hein. Je travaillais pour une société suisse. On s'est rapproché d'un opérateur économique en Belgique. On a fait une association. On a sorti nos paquets par le biais de son réseau de distribution, du coup.
J'allais venir, j'étais avec Buddies. Tu dois connaître Buddies en Belgique.
Tout à fait.
Disait sur la partie eux, pour eux c'était à peu près 10 fois moins de boutiques, ça a été divisé par 10 quasiment les boutiques. Et t'as une chose qui est rentrée qui était importante aussi, c'est que bon, effectivement t'as ce droit d'assise et t'as cette, j'allais dire, ce colossal argent qui est réservé parce que tu dois payer les taxes d'avance, donc
c'est ça, les timbres
extrêmement difficile.
Oui, tout à fait. Et il y a des quotas de timbres aussi, tout ça. Oui, effectivement, c'est pas donné.
Mais écoute,
Buddy, c'est un acteur qui est là depuis ils sont là depuis le tout début aussi en Belgique. Ils sont arrivés, ils ont surfé sur la vague, ils s'en sont bien sortis. Mmh. On repasse le bonjour tant qu'ils sont là.
Mmh. On leur passe le bonjour. Ils sont pas au Canada d'ailleurs. Mais justement, tu sais quoi, j'allais te lancer sur le pharma, mais vu qu'on est sur le tabac, lançons-nous sur le tabac dedans. On a parlé de la Belgique.
Allez.
Et on a parlé justement de ces droits qui doivent être payés. Donc il y a deux choses qu'il faut prendre en compte sur la partie tabac. C'est que, un, on a effectivement cet argent qui doit être les timbres fiscaux, qui doit être payé d'avance, ce qui fait qu'on doit avoir une réserve d'argent colossale pour pouvoir aller sur ce marché-là. Et donc, beaucoup d'acteurs n'avaient pas hein, cet argent-là pour payer cette partie. Et après, tu as justement cette taxe qui est là, qui fait que le produit devient beaucoup plus cher que ce qu'il était avant, où les marges sont vraiment réduites et sur lesquelles il faut aller en grande quantité. Alors, il faut le dire, c'est pas le cas en France. On en a parlé potentiellement que la France allait faire ce genre de choses. Est-ce que toi, tu penses que ça va arriver en France?
Écoute, quand on lit la ligne 6 et la ligne 8 là, de l'article de la 1000DK après l'arrêté du Conseil d'État, enfin la décision de stopper l'arrêté du Conseil d'État, le fameux arrêté là qui a, enfin voilà, lequel je parle, hein, ça laisse, bah oui, ça laisse présager une fiscalisation. Ça reste de la spéculation là à l'heure actuelle, mais quel autre moyen de logistique respectant conformité et légalité du produit autre que ça pour un contrôle de l'État et forcément une taxe, puisque je pense pas que l'État ne se gaffe pas outre-jugement comme l'a fait la Belgique sur le produit, surtout dans la période de crise dans laquelle on est.
Mais t'as déjà des taxes, Patrice. Les produits sont déjà taxés.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais une vignette fiscale rajoutée dessus, je pense pas que ça va arranger.
On est à quoi? On est à 55% de taxes, c'est ça?
C'est horrible.
Ouais, c'est monstrueux. Mais alors, par contre, ça, si on parle. Alors, moi, je te dis, personnellement, je ne pense pas, j'aimerais pas qu'on aille dans cette direction parce que potentiellement, je te l'ai dit, divisé par 10, toi, tu me dis divisé par 2 ou divisé par 3 les boutiques, mais les boutiques en France vont avoir très mal si ça passe et évidemment, le marché partirait dans les tabacs. Parce que eux, ils ont l'habitude de travailler avec des produits à faible marge. On parle de cigarettes, on parle de plein de choses. Donc, eux, c'est des personnes qui ont l'habitude de parler dedans. Moi, j'ai peur que si on bascule dans ce côté-là, effectivement, on perd une grande partie de la filière.
C'est le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Je peux me planter, mais je pense que, effectivement, ça aura un impact économique, mais il faut y arriver. Et est-ce que c'est toujours pareil? Ça va être problématique, mais si c'est pour que ça débloque une vraie filière, que le travail des professionnels des chanvriers français soit valorisé, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et je reste persuadé à ce report clientèle qui, de toute façon, se reportera sur les huiles, sur les extractions, sur les infusions, sur tous les produits qui pourront continuer à trouver sur une boutique. Et je pense pas que on soit à l'aube de bureaux de tabac qui nous sortent une gamme complète de cosmétiques, de baumes, d'huiles, de granulés. Non. Voilà, ça va surfer sur la vague, mais ils vont se rapprocher des gros, du circuit. Alors, ils auront la chance de tomber sur des gros qui leur vendront des produits de qualité, mais dans les marges qu'ils vont demander, parce qu'on les connaît tous les deux, je pense pas qu'il va ressortir du qualitatif. Donc, il y aura toujours cette chaîne. Il faut pas être aussi vrai qu'il y a de la place pour tout le monde pour travailler. Il faut aussi admettre qu'il y a de la place pour tous les portefeuilles. Et ça se voit quand on fait une étude de marché sur les différents départements. On voit différents endroits où, voilà, on arrive presque à cibler les produits qui sont les plus vendus et les plus utilisés. Et ça se reporte aussi beaucoup dans le tabac. Je vois, par exemple, à la frontière française, belge, dans le nord de la France, beaucoup de Français vont acheter leurs cigarettes en Belgique parce que moins cher. Et on trouve des pots, je crois, c'est 10, 15 kilos, peut-être 20 kilos, je crois que même ouais, 5 ans, j'exagère peut-être, mais c'est des gros seaux de tabac énormes. Et donc, du coup, je peux t'assurer que va acheter des cigarettes à Liège tu trouves très peu ou très rarement de produits en grosse quantité comme ça. C'est des produits qui sont mis en place. D'ailleurs, j'en discutais avec un distributeur qui distribuait beaucoup hein, de tabac frontalier, qui disait que c'était des produits qu'il avait mis en place pour, voilà, au final, la clientèle, peut-être le nord de la France, voilà, peut-être le pouvoir d'achat un peu plus faible. Donc, du coup, on achète en plus grosse quantité pour fumer, enfin, payer son tabac moins cher. Je sais pas si tu as ouvert déjà un seau de tabac comme ça, mais le tabac est ignoble, hein. C'est de la grosse coupe et tout, c'est pas beau du tout. Donc, mais pourtant, il y a une clientèle pour ça et une clientèle qui s'en satisfait, ou par goût, ou par besoin, ou par obligation. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Le marchand de tabac, il n'en vend pas, comme ça, les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un paquet de Marlboro, ils fument pas. Non, je pense qu'il faut adapter la marchandise. Et le produit, alors toujours dans un aspect qualitatif, parce que on peut vendre un produit pas très beau, mais qui soit bon. Je veux dire, une fleur française, j'avoue qu'elle va pas avoir la tronche d'une fleur italienne ou suisse magnifique avec des cristaux, tout ça. Mais on a des très très bons produits, hein, des produits goûtus, la bonne fleur avec un bon goût, surtout qu'elle a pris le soleil. On a dit, quand tu dis qu'une fleur a le goût de soleil, ça c'est vraiment ça en fait. Elle prend les UV, ça donne vraiment du parfum à la plante. J'ai envie de dire, au niveau du goût, c'est très bon, une fleur extérieure. C'est peut-être même ce qu'on peut trouver de mieux. Donc ça va permettre de cibler des coûts relativement bas, mais avec une marchandise qui sera à la hauteur du prix. Les clients vont le payer. On ne parle pas encore de la taxe, bien évidemment. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, pour l'excellence, pour la fleur de qualité, les clients pourront toujours se rapprocher de leur boutique spécialisée ou de leur chaîne qui. Alors, il y a quelques chaînes hein, qui prônent excellence. Pas faire de pub, je dis pas de nom, mais il y a quelques chaînes qui prônent excellence sur le produit en France. Donc, pourront toujours se rapprocher de ces chaînes-là ou de ces boutiques-là. Tu vois, je suis pas vraiment sûr que le business soit incompatible au final, quoi.
J'entends, Patrice. Et je pense que c'est un débat qu'on peut avoir pendant plusieurs heures. On va passer au prochain sujet, mais la dernière réponse que je te dirais sur ça, c'est je suis d'accord avec toi. Après, le plus gros du marché aujourd'hui reste la fleur, qui est quasiment à 70%, on va dire, voire même plus du marché. Et cette partie-là, si évidemment elle part en tabac, elle est taxée avec les droits d'accise à 55% de taxes en plus. Ça va évidemment faire mal, et surtout s'il faut une grosse réserve d'argent. Et je te dirais, en Belgique, tu l'as vu ce que ça a donné sur le marché, ça a fait plutôt mal. Moi, je le vois difficile, même si tu as raison, il va falloir bosser sur d'autres sujets, sur d'autres projets, sur d'autres produits à côté, autour, qui gravitent autour du cannabis, du CBD, et qui sont peut-être sous-exploités actuellement. Tu as parlé des baumes, tu as parlé potentiellement des huiles, tu as parlé de plein de choses qui sont du thé potentiellement. On va en parler, je suppose, en pharma. Mais je veux dire, il y a plein de choses qu'on peut aller chercher qui sont assez exceptionnelles et qui peuvent ouvrir de nouvelles portes. Et c'est sur ça où il va falloir se battre. Alors, le tabac, comment tu le vois, toi? Comment tu vois le tabac? Je t'ai dit, tabac, c'est très bien organisé. C'est des syndicats qui sont ultra puissants. C'est des syndicats qui pèsent dans la politique. On parle de plus de 20 000 tabacs en France. On voit que les tabacs se sont de plus en plus diversifiés aujourd'hui. C'est des personnes qui ont l'habitude de travailler avec toute petite marge. On parle de marge à potentiellement 10% ou en moins. Et pour être allé sur des salons et des salons de tabac notamment, on voit que maintenant, on peut tout faire dans un tabac. On peut ouvrir un compte bancaire, on peut acheter du CBD, on peut. Voilà, les tabacs deviennent quasiment toutes les petites boutiques qui sont en train de fermer sont en train de se remettre dans dans les tabacs. Alors, comment toi, tu vois le marché du tabac et pourquoi tu penses que le marché du tabac est une opportunité pour le CBD?
Très honnêtement, de toi à moi, c'est celui où lequel je dis, enfin, je ne vais pas dire je gaspillerais, mais j'octroierais le moins de temps possible, puisque ce n'est pas le business qui me tient le plus à cœur. Comme je te l'ai dit, ça reste les vrais professionnels, enfin non, je peux pas dire ça, les vrais professionnels c'est pas bien, mais ça reste vraiment ceux qui vont promettre l'aspect bien-être et l'aspect thérapeutique. C'est vraiment ce qui me tient à cœur dans le CBD, donc qu'ils soient pharmaciens ou boutiques, de toute façon c'est ce qui reste le plus intéressant, le plus enrichissant au niveau de l'échange avec les professionnels. Donc voilà, maintenant par rapport au tabac, ils ont une certaine légitimité. Faut pas se cacher. De toute façon, on parle de produits à fumer. Si on arrive à proposer la fleur uniquement comme produit à fumer, qu'il soit substitut de tabac ou classifié comme autre produit à base de plantes, ça serait prétentieux de dire que le produit a pas sa, enfin, ça serait incorrect de dire que le produit a pas sa place au sein de leurs étals. Ça me paraît même normal. Maintenant, je persiste ici en disant que ça touche une catégorie de clients qui sont différents, donc bon, j'ai pas vu de moi de qualitatif encore dans les tabacs, honnêtement. Ça reste, les personnes sont...
Pourquoi? Parce que potentiellement, il faut dire aussi que sur les boutiques, certaines boutiques s'autorisent à pas forcément respecter le taux de 0,2-0,3 et être légèrement au-dessus pour justement mettre en priorité, on va dire, une qualité de fleur, ce qui n'est pas le cas dans les tabacs. Les tabacs sont obligés de rester dans les clous, et c'est pour ça que, et puis aussi d'avoir justement cette marge, cette agressivité en termes de prix, j'allais dire. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est plutôt sur de lieux entrée de gamme. Non?
Bah oui, même du bas de gamme. Après, parlons bien, qui travaille conforme aujourd'hui la fleur en France? Pas grand chose, hein. Allez, 20% des acteurs peut-être, 30% des acteurs. C'est un fait. Alors ce débat-là, c'est le seul débat sur lequel je veux pas m'investir. Pourquoi? Parce que c'est le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. La personne qui va s'imposer de travailler en 0,2, entre guillemets, va se sentir lésé par celui qui travaille en 0,1, et il aura raison parce qu'il y a une certaine forme de concurrence déloyale. Ça inclut dedans les producteurs français qui ne peuvent pas vendre leurs fleurs autant qu'ils pourraient les vendre parce qu'il y a une concurrence étrangère. Mais une personne qui travaille le 1% se dit que il a le droit de le faire au niveau de la législation européenne et des accords de libre-échange de marchandises, et c'est vrai. Et donc du coup, il a raison en plus. Donc fatalement, il est difficile ce débat. Je fais le Suisse parce que j'ai l'occasion de discuter avec des acteurs qui se trouvent de chaque côté de la barrière, et tous les arguments se valent au final. Alors le souci, c'est que ceux qui sont en moins de 0,2 sont persuadés que ceux qui travaillent en 1, c'est pour leur couler leurs affaires et pour récupérer les places de marché. C'est sûrement vrai pour certains, mais pas pour tout le monde, puisqu'il y en a qui le font vraiment parce qu'ils estiment avoir le droit de le faire. Et qualitativement, pour une fleur, qu'on soit bien d'accord. Là, aujourd'hui, les fleurs suisses sont magnifiques par rapport à ce qu'on peut trouver par rapport à une fleur française, mais c'est le taux de THC qui insiste sur la fleur. Le jour où on donne le droit aux cultivateurs français de travailler avec les mêmes taux, on aura des fleurs aussi magnifiques que ça en France. Donc, le problème se pose pas. Donc, tu vois, c'est le débat. Bon, et compliqué.
On va parler de la pharmacie dans peu de temps. Parlons un petit peu l'approche tabac et l'approche pharmacie pour faire la transition. C'est quoi la grande différence entre les deux?
L'approche tabac, comme je te dis, il y a une certaine légitimité. Ça va de soi. C'est un produit ni plus ni moins. Les produits, les grosses enseignes de tabac, hein, les gros distributeurs, les pipiers ont déjà un circuit de production, enfin de distribution. Savent déjà comment ça fonctionne, le référencement, la mise en rayon, tout ça. Donc c'est plus une formalité administrative, j'ai envie de dire. Ça reste un produit parmi d'autres de leur étal, sauf que pour le moment, c'est un produit un peu bankable. Voilà, c'est le chanvre qui marche, alors on met du chanvre. Donc, il y a vraiment pour moi un aspect, il y a quelques acteurs tabac qui sont passionnés, qui aiment bien le produit, mais la plupart qu'on rencontre, généralement, mettent des sachets de CBD comme ils mettent des paquets de cigarettes. Donc voilà, c'est pas, je trouve, une approche qui est... On est vraiment sur l'aspect marketing, là, pour le coup, et logistique. On parle, je trouve... Ma connaissance, ou pour le peu d'acteurs que j'ai rencontrés, on rentre pas vraiment dans le produit proprement dit. Là, en transition, comparativement au pharma, même en boutique, mais un échelon en dessous, on est dans des échanges beaucoup plus riches parce qu'on a l'occasion d'échanger le pourquoi du comment, la fabrication du produit, est-ce qu'il est fait avec des produits de qualité, est-ce que...
Alors, je vais te lancer dans le tabac. Maintenant, le tabac, c'est pareil. On est à plus de 20 pharmacies. Par contre, les pharmacies sont structurées de façon totalement différente. On parle de pharmacies qui se rejoignent pour faire des achats. Tu vas nous en parler en détail. Alors, pourquoi toi, t'as décidé de partir sur la partie pharma? Alors, on s'en rend compte sur ce que tu dis. Tu parles de produits qui, effectivement, toi, t'as permis d'aller mieux, de remplacer notamment des médicaments. Donc, je suppose que déjà, dans ton ADN de base, tu le ressens et tu sais que c'est une évidence pour toi de partir en pharmacie, mais peut-être pas une évidence pour tout le monde. Parle-nous un petit peu comment tu as eu l'idée, pourquoi tu as voulu aller en pharmacie et quels sont, selon toi, les produits qui sont adaptés ou quel est l'avantage d'avoir des produits CBD en pharmacie?
Écoute, je dois t'avouer que là, pour le coup, c'était un petit peu un coup de poker, mais j'ai commencé à travailler avec les boutiques, hein, comme tout le monde, et le problème était la législation. C'est vrai que je me suis dit qu'à partir du moment où on va trouver un produit dans une pharmacie légalement, il n'y aura plus cette diabolisation du produit, et les gens auront un déclic dans leur tête en se disant eh ben, si je le trouve en pharmacie, eh ben, j'ai le droit de l'acheter. Aujourd'hui, je te parle de ça, c'était en 2017. Là, maintenant, il y a de la pub à la télé. Donc, c'est te dire le chemin qui s'est passé depuis, mais néanmoins, c'était quand même une bonne réflexion parce que, effectivement, ça a démocratisé le produit et ça a même popularisé le produit. Et on se rend compte aujourd'hui, quand on fait les chiffres, que les personnes qui l'utilisent le plus en pharmacie, elles ont au-dessus de 50 ans. Et plus on se rapproche des 70 ans et plus le nombre de personnes utilisatrices de CBD, bah voilà, est important. Et c'est normal au final parce que passer la cinquantaine, l'avissement, c'est les petits les douleurs de dos, enfin voilà, tout tracas qui vont avec l'augmentation de l'âge. Donc et ce qui se passe aujourd'hui, si on ajoute aussi le facteur des réseaux sociaux, on se retrouve avec des personnes qui ont la possibilité de se renseigner et qui informent leurs parents ou grands-parents. Donc les pharmaciens nous disent que ils ont des personnes âgées. Mamie arrive, 70 balais, 80 balais, moi je prends des gouttes, c'est mon petit-fils qui m'a conseillé et tout, et blabla. Et limite, des fois, elles sont mieux renseignées que certains pharmaciens qui, eux, pour le coup, au niveau formation, c'est dur, ça rame. Hein. Là, le produit est boudé, parce que tu veux qu'on y revienne par la suite, mais c'est souvent, les pharmaciens me disent que les premiers implantation de CBD, les personnes qui achetaient du CBD, du coup, étaient mieux renseignées qu'eux.
Alors, je sais, Patrice, que tu fais des formations, justement, toi, où tu t'expliques notamment aux pharmaciens, et puis il y a plein de personnes sur ces produits-là. Tu me dis que le produit est boudé. Pourquoi le produit est boudé?
Alors, le produit est boudé puisqu'il y a déjà la diabolisation du cannabis. Fatalement, on est dans le passé, on vit encore dans les années 50 un petit peu, et puis on bouleverse un petit peu l'industrie pharmaceutique avec le CBD. Si je sais pas, on va prendre l'occurrence. Dans les vertus du CBD, on va mettre en avant l'aspect anti-inflammatoire, par exemple, et aussi l'aspect un petit peu antidépresseur. Je parle toujours un petit peu, on s'occupe du corps et de l'esprit un petit peu quand on prend du CBD, parce que généralement, pour les personnes qui ont des pathologies sur du long terme, comme de la polyarthrite ou des choses comme ça, des personnes qui ont mal tout le temps depuis 10 ans, ont une douleur physique, mais vont mal dans leur tête aussi. Quand on a mal tout le temps, on va pas bien, hein, on est dépressif et tout. Donc, quand je parle du produit un petit peu double casquette, on va agir un petit peu sur la douleur et on va agir du coup l'aspect antidépresseur sur le bien-être de l'intérieur de la personne. Donc on va avoir une certaine utilité et surtout une biodisponibilité importante par rapport au CBD. Le concurrent direct d'un aspect médicamenteux, on va citer une marque pour le diclofénac, comme ça on ne dira pas le laboratoire qui est le travail ni le médicament. C'est la molécule anti-inflammatoire le plus utilisée en Europe. Aujourd'hui, le diclofénac, on sait que ça bousille le foie, les reins, la paroi stomacale. Ça augmente de 20 à 25% le risque d'accident cardiovasculaire pour un utilisateur régulier sur le long terme. Ça a des effets néfastes. Au final, alors oui, effectivement, c'est un très bon anti-inflammatoire, mais comme beaucoup de médicaments, on guérit le mal un petit peu par le mal, c'est-à-dire qu'on choisit, on fait un petit peu pari, je sais que je vais me bousiller ça, mais pour pouvoir me soulager ou me guérir. Là, avec le CBD, on n'en est pas là, on arrive à apporter une solution naturelle. Alors, j'insiste, ça ne remplace pas les traitements, d'ailleurs, je ne suis pas médecin, seul médecin de dire est-ce qu'on peut ou pas remplacer, substituer, hein, bien évidemment, mais aujourd'hui, il y a des médecins qui le travaillent, il y a un projet thérapeutique qui était mis en place fin 2018, début 2019, avec la NSM. Il y a des médecins référents dans beaucoup de villes de France. Même si c'est difficile d'y avoir accès, ça passe par une ordonnance du médecin. Il y a un process pour avoir accès à rencontrer le médecin et rentrer dans le... Enfin ça se fait, quoi. Il y a quand même une réelle avancée au niveau thérapeutique par rapport à ça. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut mettre en place, et c'est ce qui va permettre aussi de le développer, c'est que hormis les pharmacies des grandes villes, on part du principe qu'un pharmacien connaît à peu près, deux, trois générations. Il connaît le petit-fils, le fils, les parents et les grands-parents. Donc, on se sert un petit peu de ça pour avancer. Ils avancent ensemble, en fait, le pharmacien et les clients. C'est-à-dire que le pharmacien affûte son diagnostic et sa posologie en fonction des retours qu'il a de ses propres patients. Et puis, la patientèle a la possibilité de venir voir un pharmacien qui va pouvoir le conseiller par rapport à son utilisation et par rapport à la posologie. Donc là, on avance un petit peu main dans la main, et c'est vrai que le fait que, il y a cet aspect d'échange entre la patientèle et le pharmacien, ça permet du coup et de démocratiser le produit et de le populariser, et en plus d'avoir une utilisation dite sérieuse.
Tu parles de... Donc là, évidemment, on n'est plus du tout dans un produit fleur. Là, tu parles de quoi comme produit quand tu parles de pharmacie? Qu'est-ce qui serait adapté, selon toi, le plus par rapport aux personnes qui sont dans les pharmacies?
Thérapeutiquement parlant, il n'y a pas photo, c'est l'huile. Voilà. C'est l'huile qui va être le plus utilisée, c'est l'huile qui va regrouper le plus de domaines d'intervention. Du coup, il y a d'autres produits, hein, mais ça reste des produits de niche ou des produits d'ultra niche. Donc, par rapport à Natorl, nous, on a fait le choix de travailler en première partie, de sortir les huiles et les infusions. Dans un premier temps, parce que c'est ce qui nous paraissait être le plus important et le plus essentiel. On a travaillé sur une huile utile et non une huile bankable, du coup. Et voilà, après, il a quand même fallu étoffer un petit peu la gamme. Donc, on s'est rapproché un petit peu de ce qui allait, de ce qui avait un sens, de se retrouver dans les étals d'une pharmacie. Et on a fait des tests un petit peu sur les huiles de massage. Donc, on a pensé que c'était une bonne chose, enrichie au CBD, puisqu'on pouvait toucher des personnes comme les kinésithérapeutes, par exemple, qui pouvaient l'utiliser de par son aspect anti-inflammatoire. Et puis, le chanvre aussi, c'est très bon, hein. Dermatologiquement parlant, ça hydrate, ça répare, ça protège la peau, donc c'est
tu
parfait.
Tu parles d'une huile utile, tu peux rentrer en détail un peu plus?
L'huile utile, comme je t'ai dit, il faut tomber le masque un petit peu de tout ce qu'on peut se trouver aujourd'hui sur le marché. Il y a beaucoup d'éléments, broad spectrum, full spectrum, large spectre, on entend beaucoup de termes. C'est vrai que les gens, dès qu'ils vont entendre broad spectrum, ils vont assimiler la chose à ce qu'on peut retrouver vulgairement parlant dans des grosses marques à base de liquide, terpènes chimiques et isolat. Bon, c'est une cochonnerie ça, hein, clairement, hein, puisqu'il faut vraiment qu'il y ait le totum de la plante, l'ensemble des cannabinoïdes. Hein. C'est ça qui fait qu'il y a une interaction thérapeutique. Isoler une molécule utilisée, on voit pas vraiment l'intérêt ni l'utilité. Donc, on a quand même du broad spectrum qualitatif qui n'est pas forcément utilisé avec des isolats. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, à très faible taux, il n'y a pas d'effet d'entourage avec le THC. Donc, à l'heure actuelle, le THC en pharmacie ferme plus de portes et qu'il n'en ouvre, puisque de par justement sa diabolisation, le permis. Et voilà, il y a des taux pour l'alcool, il n'y en a pas pour le THC. La moindre trace dans le sang peut suivre un retrait de permis. Donc, ça ferme plus de portes. Alors, quand je parle d'huile utile, c'est-à-dire qu'en fait, on va sortir une huile donc en broad spectrum sans THC, puisque le THC n'a pas d'utilité. Et dans ces taux-là, bien évidemment. Mais par contre, on va renforcer naturellement des spectres qui peuvent avoir une utilité thérapeutique, comme le CBG, comme le CBN aussi, qu'on ne trouve pas naturellement dans la plante puisqu'il est issu de l'oxydation du THC, mais qui est dépourvu de ses propriétés stupéfiantes une fois transformé. Donc quand je parle d'huile utile, c'est-à-dire qu'on va renforcer naturellement les cannabinoïdes de l'huile pour qu'elle puisse avoir une interaction thérapeutique ciblée et non passée par un process dit de placebo, entre guillemets.
D'accord, mais là-dessus...
Énormément de gens font ça, d'ailleurs. On voit beaucoup de compléments alimentaires. Il y a des grosses boîtes spécialistes dans le complément alimentaire. Je vois des feuilles de cannabis dessus et tout. Les gens pensent qu'ils ont l'impression que... Alors que non, le chanvre est un très bon complément alimentaire. D'ailleurs, c'est un réseau de 3 pour 1, un acide gras essentiel. Saturé, non saturé, donc du coup, c'est très bien. Mais donc ça reste un très bon complément alimentaire. Mais celui qui achète une boîte Arco avec une feuille de cannabis dessus, faut pas croire qu'il va voir des éléphants roses, quoi. On parle vraiment du chanvre proprement dit, comme on le retrouve partout, huile de chanvre, farine de chanvre, on trouve dans tous les grands magasins. Il y a absolument pas de CBD dedans.
Là t'as parlé de l'huile, mais t'as parlé aussi du taux de THC. Aujourd'hui, les pharmacies, je pense qu'elles doivent être assez, assez fermées sur ce taux de THC. Comment tu gères pour avoir du full spectrum? Mais c'est en enlevant le taux de THC, tu peux pas. Comment tu fais pour avoir du full spectrum?
Ah non, on passe en broad. D'ailleurs, nous, on a appelé notre huile high spectrum, d'ailleurs. C'est la dénomination qu'on lui a donnée pour expliquer aux... Enfin, c'était le terme de mettre aux gens que ces spectres étaient renforcés. Mais on insiste bien en disant qu'on part sur une base de broad spectrum. Il y a très peu de traits de THC parce que... Alors, oui, diaboliser, après, j'aime bien faire des catégories un petit peu. Les pharmas, ça fonctionne de façon assez spéciale parce que, à la base, au début, les premières pharmacies qui ouvraient, Bon, il y avait une prise de position. Faut savoir que les pharmaciens ont été les premiers à avoir la possibilité d'utiliser le cannabis, hein, sous forme, d'ailleurs, même les fleurs, hein, ils pouvaient les utiliser ou en tant que préparation magistrale, ou pour faire des décoctions ou des macérations. Donc, ils avaient la possibilité de les utiliser, mais le conseil de l'ordre des pharmaciens était un peu grincheux. Bon, depuis la légifération du CBD, voilà, quand on demande au conseil de l'ordre du pharmacien, est-ce qu'on peut, le conseil de l'ordre du pharmacien vous dit, bah, oui, vous pouvez, mais par contre, voilà, il n'est pas très loquace sur le sujet, hein. Donc les premiers pharmacies qui ouvraient, on appelait ça les frondeurs. C'était des personnes qui, bah voilà, au bout d'un moment, les personnes rentraient dans les patientèles rentraient dans les pharmacies, demandaient du CBD, du CBD, du CBD. Donc au bout d'un moment, il y a des pharmaciens qui ont décidé de dire, bah on va faire du CBD puisque bah voilà, on nous en demande. Et puis les personnes s'intéressaient aux produits. Souvent les pharmaciens s'intéressent aux plantes et aux médecines, enfin alternatives, hein, tout ce qui est homéopathie, tout ça. Donc et commence à rentrer comme ça. Après, il y a eu de plus en plus de pharmacies qui ont ouvert. Et puis, je pense que ce qui arrange tout le monde, c'est que le pharmacie, lui, il rentre au sein des, enfin, les produits rentrent au sein des regroupements et soient redistribués après. Et c'est ce qui commence à se passer un petit peu maintenant. Il y a beaucoup de regroupements qui s'ouvrent. Et d'ailleurs, on est en train de vivre sur le pharma, ce qui s'est passé sur les boutiques au départ. Je vois les marques d'huile, c'est tout et n'importe quoi. Je vois des trucs, ça parle de Kush, ça parle de weed, ça parle de tout ça pour les flacons pharma. C'est surréaliste, hein, franchement. Donc, mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, soit tant mieux, même
Ouais,
presque.
j'allais dire, les pharmaciens, ouais, sont des personnes qui connaissent les produits, qui ont fait pas mal d'études, donc je pense qu'ils seront moins
Dur.
sensibles sur ces parties.
C'est ça, c'est
Voilà,
dur.
je comprends par rapport à ça. Alors toi, tu me parles aujourd'hui d'intégrer. Je sais que tu travailles avec plusieurs centaines de pharmacies. Aujourd'hui, tu parles d'huile. Alors, c'est une huile qui est quoi? Qui est proposée par le docteur ou qui est proposée directement par le pharmacien? Comment ça se passe? Pour quel mot est utilisée cette huile que tu vends toi en pharmacie?
Alors, pointilleux, déjà officiellement, l'ANSM avait déjà des partenaires en place, la médicamentation entre guillemets mise en place, hein. Il y a des fournisseurs qui fournissent du cannabis officiellement, mais là on parle plus du THC pour le coup, puisque ces fournisseurs-là qui fournissent le THC fournissent le CBD à des prix exorbitants, c'est incroyable. Donc du coup, mis à part le THC, il y a quand même une trame de ce projet thérapeutique, et je pense que le but de Natorl est de travailler un petit peu sous forme de triangulaire, c'est-à-dire qu'on se situe entre le pharmacien, le producteur et le laboratoire, et il y a besoin de faire un travail, ben, je veux dire, en collaboration par rapport à ça. Ça implique aussi une formation de la pharmacie, et c'est surtout que là, pour le coup, aller raconter à une personne lambda, lui parler de triglycérine, de choses comme ça, bah, la boutique, la plupart du temps, on va dire, bah oui, le monsieur a l'air de s'y connaître, il connaît son sujet, voilà. Mais lorsqu'on rentre dans le vif du sujet avec un pharmacien, ça devient plus compliqué parce que là, pour le coup, lui a fait des études de ça. Si on parle de biodisponibilité, de système endocannabinoïde, de triglycérine, de transformation de tout ça, là, il sait de quoi on parle. Donc, ça demande un vocabulaire un peu plus fourni, et surtout une connaissance du produit un peu plus
D'accord, et
fournie.
donc pour revenir à ma question, aujourd'hui, c'est pour quel mot l'huile peut être utilisée? Peut-être, bon, elle n'est pas prescrite, mais on va dire comment et pourquoi un pharmacien va proposer de l'huile plutôt qu'autre chose?
Bah, c'est pour voilà, je t'ai dit ça pour en arriver à là. Le souci, c'est qu'il n'y a pas vraiment entre guillemets de corrélation entre les pharmaciens et les médecins. Donc, c'est pas dans le domaine de courant de prescrire du CBD sur une ordonnance. Donc, le but des laboratoires, je dirais aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre des médecins pour leur expliquer, comme le font le aussi c'est un travail de visiteur médical au final, hein, comme le font les laboratoires pour leur expliquer qu'il y a le CBD, que les laboratoires le travaillent et leur mettre en avant, bah voilà, la conformité d'un produit, la traçabilité et la qualité. Et c'est ensuite d'aller aussi toujours vers les docteurs en leur expliquant que telle et telle et telle pharmacie travaille le produit pour qu'ils puissent aiguiller les patients et les envoyer là-bas. Pharmacie ou boutique, peu importe, s'il n'y a pas de pharmacien qui le travaille, mais le souci, le but est d'avoir un suivi. Et tu comprends ce que je veux dire un petit peu? Que le client puisse avoir un parcours où il sait qu'il va avoir et les bonnes informations et le bon
D'accord, mais
produit.
aujourd'hui, tu l'as pas, ça, ce médecin qui prescrit ou qui conseille, c'est
Si, 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 si. En tout cas, au sein de Natorl, on envoie, alors après, peut-être parce que je vais à la
Ouais.
rencontre des médecins, mais c'est pas compliqué. Les listes des médecins sont sur le site de la NSM. On peut facilement aller rencontrer. Moi, mon support de formation, je l'ai fait avec des médecins lillois, hein. Je l'ai rédigé, je l'ai écrit, je les ai rencontrés, j'ai pris des notes, j'ai assisté à des conférences. Bon, et ben voilà, ça m'a pris du temps, mais j'ai réussi à sortir quelque chose qui aujourd'hui tient la route. Donc, Les médecins, c'est le même principe que les pharmaciens. On va avoir les médecins réfractaires qui vont attacher à leurs vieilles valeurs, à leur Doliprane, à leur Voltaren. Mais ça, c'est fini. Ils sont en voie de disparition, ces médecins-là. Aujourd'hui, on a, voilà, beaucoup de médecins avant-gardistes qui essayent les nouvelles technologies, la mésothérapie, la phytothérapie, l'homéopathie. Il y a plein de médecines alternatives. Alors, médecine alternative adaptée aux maux, bien évidemment. Faites de la méso à quelqu'un qui a fait une grosse hernie discale qui lui compresse le sac des connexions nerveuses, bah oui, c'est foutu, il aura beau faire toute la méso qu'il veut, ça le soulagera pas. Donc la médecine, je dirais, alternative et aussi adaptative, elle doit être adaptée. Donc il y a quand même beaucoup de médecins, beaucoup d'homéopathes, et puis les pharmaciens de toute façon assument le relais pour l'instant et le font. Peut-être même.
Donc ça veut dire qu'en gros tu viens pour je sais pas, t'as du mal à dormir ou choses comme ça. Docteur, t'as pas forcément, il t'a prescrit des médicaments potentiellement, et toi derrière le pharmacien viendrait en complément te proposer une huile de ces princesses.
Bah pas en complément, moi je vois des pharmaciens déjà qui proposent. Écoute, t'as le quelqu'un qui a un patient qui va dire, bah voilà, j'ai des problèmes de dormir. T'as le pharmacien qui va te dire Synlox, hein, ceux-là, il y en a beaucoup quand même aujourd'hui, hein. Et t'as celui qui va te dire mélatonine. On est déjà dans un truc un peu plus soft quand même. Et puis la mélatonine, on en produit naturellement. Donc voilà. Et puis t'as l'avant-gardiste qui te dira, bah, il y a le CBD. Et puis celui qui s'y connaîtra encore plus, il te dira CBD, CBG, CBN. Comme ça, bah, voilà, il y a toujours le. Ça dépend sur lequel tu vas tomber. J'espère qu'à l'avenir, il y aura plus de personnes qui vont mettre en avant le cannabis et la méla pour les problèmes de sommeil. Mais il y aura toujours des médecins pertinemment qui chiffreront parce qu'ils ont des arrangements avec les labos, parce qu'ils prescrivent, parce que c'est comme ça.
Et donc là, on a parlé de mieux dormir, mais sur quel autre. Sur quoi on pourrait aller en pharmacie et prendre de l'huile, par exemple? Sur quoi d'autre comme.
Alors qu'on soit bien d'accord, je vais toujours te dire, je vais pas te donner d'informations.
C'est très bien. J'essaie de te pousser.
Je peux pas me substituer à la médecine, et donc du coup, je peux pas te dire ça aide, ça soigne ou ça guérit.
Je te pousserai pas à la fois. T'inquiète pas, je sais depuis tout à l'heure, j'essaie de te pousser un peu, mais je te pousserai pas à la fois.
Non, mais ça marchera pas. Je connais le, à force de le dire, je connais le job. Il y a plusieurs domaines d'intervention. Les médecins peuvent aiguiller les personnes pour les problèmes de stress, pour les problèmes d'anxiété. Mais on sait aujourd'hui que les études le prouvent. Alors, pour pas dire de bêtises, j'ai pris la liberté d'aller chercher des études. Alors, elles sont beaucoup canadiennes, israéliennes ou américaines. Il n'y a pas beaucoup d'études en France. Ça commence tout le monde. Mais bon, ça reste des études quand même. Des études qui ont leur légitimité. Donc on parle de sclérose en plaques, on parle de c'est un antispasmodique, donc on parle de la maladie de Parkinson, c'est un vasodilatateur aussi, donc ça permet de réguler l'hypertension. On parle également des aspects de fluidification du sang, donc la récupération dans le sport. Il y a beaucoup de ligues aux États-Unis, hein, qui ont. Bah, je pense notamment, il me semble, la NFL, la Major League de football américain. Il y a le MMA aussi. Il y a d'ailleurs beaucoup de sportifs, hein, de MMA qui mettent en avant le CBD pour l'aspect anti-inflammatoire et puis pour la récupération. Et puis, c'est le cannabis qui a enrayé, entre guillemets, alors plus ou moins, mais ça a beaucoup aidé. La crise du tramadol qu'on a pu voir il y a quelques années, là, aux États-Unis. Bah voilà, les joueurs étaient soumis de football américain, par exemple, étaient soumis au choc, au coup, et voilà, prenaient beaucoup de cette cochonnerie, en devenaient accro. Bon, on a pu un petit peu enrayer cette crise en partie avec le cannabis. Donc, il y a un domaine d'utilité qui est, c'est florissant. Il y a des études qui démontrent aujourd'hui, il y en a une du collège de médecine Penn State en Pennsylvanie qui démontre que le CBD agit sur le cannabis, agit sur le glaucome. Donc, en fait, par indirectement de causalité, en gros, il va réduire la pression dans le globe oculaire, ce qui va permettre de soulager considérablement la personne. Donc, tu vois, l'arthrite aussi, j'en ai parlé, la sclérose en plaques, toutes les pathologies qui vont nécessiter le fait d'utiliser ou un anti-inflammatoire ou un antidépresseur, d'accord, on va pouvoir y associer le cannabis. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Je sais que des fois, ça peut paraître dur pour certaines boutiques, mais il faut quand même se rendre compte qu'on ne peut pas s'inventer médecin du dimanche et proposer du cannabis pour des personnes qui en ont une utilité thérapeutique. des personnes qui ont des médicaments, des traitements bien spécifiques, on peut dérégler le mécanisme du foie, par exemple, je parle au niveau des enzymes et l'assimilation du traitement, donc du pouls, on peut aussi créer un déséquilibre alimentaire, ce qui peut créer plus de bien que de mal, et donc c'est pas à négliger, seul un médecin proprement dit pourra associer ou substituer le cannabis à un traitement en fonction de la pathologie de la personne. Ça, c'est important de le préciser et c'est important qu'on garde ça à l'esprit. Après, pour 99% des autres médicaments, je dirais, allez, 98%, ça nécessite juste une prise en décalé. C'est-à-dire, on prend son traitement à 8 heures, on prend son CBD à 10 heures, vice-versa. On assimile un petit peu comme le pamplemousse. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, non. Mais souvent, le pharmacien nous dit, quand on va prendre des médicaments, on dit... Bah voilà, ne prenez pas de pamplemousse, c'est à cause des enzymes du foie en fait, ce qu'on appelle les cytochromes P450. Et voilà, ça permet. On a juste besoin d'avoir une prise en décalé. Bon, par contre, il reste quand même une catégorie où voilà, il faut faire vraiment attention. Tout ce qui est anticoagulant, par exemple, notamment sur la base de warfarine, hein, et ceux qui prennent des hormones thyroïdiennes aussi ou des anticonvulsants, genre clonazépam ou trucs comme ça. Là, par contre, ouais, il faut pas prendre de CBD, il faut vraiment voir le docteur et dire bon, est-ce que je peux prendre du cannabis parce que j'ai tel médicament. Et ça, malheureusement, une personne d'un shop, avec tout le respect, le bien que je pense des shops, c'est pas des choses qu'ils peuvent savoir, hormis s'ils se sont renseignés, mais c'est très peu. Il faut vraiment se renseigner auprès des docteurs, essayer de savoir pourquoi les médicaments, c'est long et fastidieux. Je pense pas que l'ensemble. Donc voilà, cet aspect médical, il est important. Il n'est pas aussi injuste que le tabac parce qu'il ne va pas enlever le pain de la bouche des boutiques, du coup. Et il va apporter une complémentarité aux boutiques et surtout une dédiabolisation et une homologation, comme je te disais tout à l'heure. Maintenant, on peut se dire, si c'est en pharmacie, j'ai le droit de l'acheter. Donc c'est peut-être mieux même pour les boutiques, puisque maintenant, bah, les gens vont pouvoir aller acheter des produits au sein de leur officine sans avoir l'impression d'être.
Excellent, excellent. Tu as beaucoup parlé d'huile. Après, il y a d'autres produits. Tu nous as parlé de thé, de tisane tout à l'heure.
Des tisanes, des infusions. Un tisane, infusion. Les tisanes, c'est facile à placer au niveau pharma, bien que le CBD étant considéré toujours comme une nouvelle food. Enfin, le cannabis, ça reste compliqué pour le fait d'ingérer un produit. Hein. Donc, on est toujours un petit peu borderline au niveau de l'infusion. Bon, les taux de CBD d'une infusion sont relativement bas. Des taux qui vont être à 3, 4, peut-être grand maximum 5%. Ça montera jamais plus. Donc, on est dans une utilisation de confort, hein, pour des petits maux, pour les petits troubles. Ça s'associe bien avec l'huile. Ça vient en complément. Mais le produit phare restera.
Alors, tu sais, souvent, dans les boutiques ou un peu partout, on conseille de mettre un corps gras avec les tisanes. Est-ce que tu peux nous dévoiler pourquoi?
Ben, c'est pas tout simplement un conseil, c'est faut impérativement le faire, puisque la tisane qu'on va utiliser sans ajouter de corps gras, les molécules, enfin les cannabinoïdes ne vont pas être fixés en fait, donc vont rester dans la plante. Donc on va bénéficier, oui, fait du goût d'une infusion, tout ça. Ouais, la tisane sera bonne, mais on ne captera absolument pas les cannabinoïdes. Donc le fait d'ajouter un corps gras à la fusion permet aux cannabinoïdes de fixer dans ce corps gras et donc bah, de prendre tous les bienfaits de la plante. On parle bien d'infusion, on ne met pas à bouillir sa plante. C'est-à-dire qu'on fait chauffer une eau, on met sa fleur dans une petite boule de thé et on vient mettre sa boule de thé dans l'eau bouillante et on laisse infuser la fleur. On ne fait pas bouillir la fleur, on parle bien de... On fonctionne bien comme ça. Mais comme je te dis, ça reste pour les petits maux ou pour les... Bon, toi, je sais maintenant que t'es un passionné de thé, donc du coup, voilà, on vient chercher la petite note un petit peu en fonction des plantes. Et voilà, mais oui, pour l'utilité thérapeutique, il faut impérativement un corps gras, que ce soit une cuillère de lait ou soit un petit peu du beurre en fonction, ou surtout aussi un bon miel. Généralement, ça marche aussi. Un vrai bon miel, hein, pas un sirop.
Ou une goutte d'huile de CBD aussi.
Oui, une goutte d'huile de CBD, tout à fait. Oui.
Tu m'as trahi, hein. Je t'ai fait goûter mes fabuleux thés. C'est pour ça que.
Ouais,
mais... Ok, tu as d'autres produits qui sont aussi les baumes. Tu nous as parlé de ça, ça peut être intéressant, notamment pour les sportifs.
Les baumes pour l'application locale, tout à fait, puisque ça passe par les pores de la peau et voilà. Alors pour les sportifs, voilà, joker au niveau du baume, parce que est-ce qu'une pommade fortement chargée en CBD peut agir comme une pommade anti-inflammatoire? Honnêtement, je le sais pas. Et je suis pas sûr que quelqu'un soit capable de le dire aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'un fort taux de CBD dans une pommade soit forcément utile. Comme il soit forcément utile de se masser avec une huile aussi à 40%. Je pense que l'application sublinguale reste la plus utile. Maintenant, en complément aussi, dans le cadre d'une prestation de massage par un kiné ou quelque chose comme ça. Oui, effectivement, il y a déjà beaucoup de kinés, hein, qui utilisent le CBD, l'huile de CBD pour masser leur patientèle. Je suis pas sûr qu'on peut parler de bobologie du chanvre encore, parce que bon, il y a l'air d'avoir quand même une certaine utilité pour le moment. Voilà. À voir. Après, si avec le temps, avec les études, si ça reste pour moi encore un produit de niche, voire ultra
Je
niche.
vois ce que tu veux dire. Moi, je te donne l'exemple de mon père qui fait de la spéléo. Et à chaque fois, il me harcèle pour me demander des produits CBD parce que pour lui, ça a été presque un produit miracle, tu vois, de placer dans. Il a des douleurs articulaires et il le place sur ses douleurs articulaires. Et à chaque fois, il me harcèle pour avoir les produits. Et là, tu vois, tu n'as pas d'effet placebo, tu as un véritable effet physique qui fait que ça l'a aidé. C'est pour ça que pour moi, c'était une évidence. Mais toi, je te vois un peu plus réticent sur ça.
Mais non, ça dépend encore une fois l'utilité. Je peux te donner plein d'exemples des personnes qui ont utilisé le CBD en baume au sein de, bah, je sais qu'au sein de des sports études de judo de Lille, les blessures qu'ils se font avec le kimono lors des étranglements ou avec le tatami, avec les frottements dessus, l'application de CBD, bah, c'est cicatrisant aussi, et c'est anti-inflammatoire. Donc du coup, bah, ça répare la peau. Et il y a plein de maladies, je vais t'en citer une autre, par exemple, la maladie de Verneuil. J'ai rencontré une dame il y a quelques années qui s'est entièrement soignée avec ça. Alors la maladie, tu connais la
Pas du
maladie de
tout.
Verneuil? Alors c'est les pores que tu as sur la peau, là où poussent les poils en fait, c'est une infection de ces zones-là. Donc tu vois, des fois, tu as des personnes, elles ont des espèces de grappes de visage. Alors ça des grappes de raisin sur le visage. Ça pousse généralement en dessous des bras et sous les aisselles, d'accord? Mais voilà, certaines personnes atteintes peuvent aussi les avoir et ça purule et tout, c'est pas beau à voir, hein. Et donc du coup, elle s'est entièrement soignée avec du CBD, avec un baume pareil, une marque que je ne citerai pas, fortement concentré du coup, et cette baume-là a des déclinaisons, bah, au tea tree, puisque le tea tree est antifongique. Donc c'est très bon pour les mycoses, pour l'herpès, pour le stress, donc pour les maladies de la peau. Non, 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 il y a une. Attention, entends-moi bien, il y a une. D'un point de vue dermatologique, il y a une réelle utilité. Maintenant, est-ce que les concentrations en CBD vont agir en tant que poubelle anti-inflammatoire? Là, c'est juste pour ça où j'ai une réticence à prouver, à avoir. Pas encore assez d'études aujourd'hui, donc je vais pas
Ok, intéressant.
m'avancer sur un
J'ai
sujet.
vu que là, on est sur les prémices sur le marché des pharma, même si ça fait longtemps que tu es dessus. Il y a encore un gros travail de fond à faire, je suppose, avec les médecins, avec les pharmaciens, et un gros travail de formation. Toi, tu le verrais mature, j'allais dire, d'ici combien de temps ce marché?
Sur les pharma, là, déjà, fin 2023, on aura déjà fait une grosse avancée, hein, parce qu'il y a des gros acteurs qui se sont mis dessus. Alors, la chance qu'on a, parce que j'ai envie de dire la chance, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'acteurs, tout aussi gros qu'ils soient, qui assurent la plantation parfaite du CBD, c'est-à-dire un gros axe de formation, une mise en relation avec les médecins, une formation au sein des préparateurs, de l'officine, voire des regroupements, un accompagnement renforcé, une présence au sein des pharmacies pour l'animation, pour répondre aux questions des pharmaciens qui travaillent un nouveau produit. Alors, ce qui est bien avec les pharmaciens, c'est que à partir du moment où ils sont rentrés dans leur logique de posologie et de prescription, ça va tout seul pour eux. C'est juste des automatismes à apprendre au final et rentrent dans les mêmes bases de prescription, hein, généralement. Donc ça va quand même beaucoup plus vite, mais ils sont beaucoup plus, comment je pourrais dire, c'est plus difficile à séduire, plus difficile à convaincre, ça pose beaucoup de questions techniques et ça c'est surtout de quoi ça parle. Donc ils veulent savoir comment fonctionne le pourquoi du comment fonctionne le produit, est-ce qu'il est néfaste, pas néfaste, est-ce qu'il est psychoactif, pas psychoactif, est-ce qu'il va y avoir une pharmacodépendance ou pas. Et voilà, c'est beaucoup plus scrupuleux. Par contre, oui, ça y est, là, non, le boom est fait fin 2023. J'étais sur ce Pharmagora l'année dernière, c'était la
Ah.
brique. Il y avait des. Ah ouais, si on serait cru, il y avait. Oh, allez, petite vingtaine de
Quand
stands
même.
peut-être. Mais. Ah oui, quand même. Mais à l'américaine, quoi. Il y avait carrément. Il y en avait qui avaient des ballons et tout, CBD, machin, truc muche, avec des stands immenses. Ouais, incroyable. Ça a pris une place importante. Et les pharmaciens qui allaient, les professionnels, hein, qui se rendaient sur les stands. Je peux même dire que ça faisait partie des stands. Bah, pour avoir tenu un stand, je peux te dire que j'ai été sollicité pendant tout le long du salon. Je suis ressorti éreinté. Je pensais pas d'ailleurs être autant sollicité que ça. Et non, 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 c'était énorme. Donc je pense que fin 2023, tu vas voir, il y aura une grosse base d'implantation au sein des
C'est énorme,
pharmacies, ne serait-ce que pour
énorme,
le
énorme,
bilan.
énorme. Tu sais, Patrice, ça fait plus d'une heure qu'on est en train de discuter ensemble. Là, je bois tes paroles tout à l'heure.
Je suis une vraie pipelette. moi. Mais si tu me lances sur un sujet qui me passionne, tu sais, totalement, c'est un plaisir de pouvoir échanger et voilà. Ça serait bien de. C'est vrai aussi, quelque chose que j'aime beaucoup, de pouvoir échanger, tu sais, avec des personnes du circuit hein, et sur différentes idées. Peut-être à l'avenir, ça pourrait être une idée pour toi, tu sais, un espèce de débat.
Tu sais que c'est dans le pipe, hein, c'est dans le pipe, évidemment. On va mettre des débats avec plusieurs personnes en face à face. Où là, je suis en train de regarder des lieux pour pouvoir accueillir ça, faire presque un débat présidentiel sur des sujets piquants et avec des échanges
pour
confronter les avis. Et ça, évidemment, ça va arriver cette année là. Dans peu de temps, c'est on the way, Patrice, par rapport à ça. Et je t'inviterai avec plaisir. Je sais que t'es crédible sur ça. Est-ce que Patrice, tu voudrais avant que je te pose la dernière question, ajouter quelque chose sur ce qu'on s'est dit? C'est
non,
bon?
Non. Je pense qu'on a fait. Bah, sinon, au désarroi de toi de relancer un sujet qui va durer.
Encore une heure.
On a déjà vu. On a déjà parlé de plein de choses. On pourrait conclure en disant qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et qu'il y a beaucoup d'acteurs sérieux en France, qu'ils soient tabac, qu'ils soient boutique, qu'ils soient pharma ou producteurs, distributeurs, et qui met le fait de mettre chaque acteur en bonne condition de travail pour que tout le monde puisse travailler dans la joie et la bonne humeur. Je suis un 68 ans, je t'ai dit. Il s'éventise un petit peu, tout le monde est beau, tout le monde tout
60 ans,
ça.
60 ans. Voilà. Patrice, bah écoute, en tout cas, merci d'avoir partagé ta connaissance, ta vision du marché sur cette partie que je n'avais pas encore abordée sur Parlons Canin, donc sur la partie pharmacie beaucoup et aussi un petit peu sur la partie tabac. Ça a été un bon moment. Je sais que tu as plein d'autres sujets à nous transmettre sur lesquels tu as une vraie appétence et une vraie connaissance sur laquelle je te réinviterai évidemment, Patrice. Dans tous les cas, c'était un plaisir de discuter avec toi, un plaisir de t'écouter, et on mettra toutes tes coordonnées, toutes les informations donc de ta société, notamment Natalm Europe, et tes coordonnées dans le descriptif pour les personnes qui voudraient entrer en contact avec toi.
Merci beaucoup, puis merci d'avoir reçu ma.
C'est normal, Patrice. Au revoir.
Avec grand plaisir. À bientôt.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.